Est-ce que Pascal Ali est un ambassadeur auprès de l'OMC?
Il a un ambassadeur. Là, il a un ambassadeur. C'est Monsieur Lang, L-A-N-G, je crois. Ouais. Peter, je crois que c'est Peter Lang. En fait, j'aurais peut-être dû vous expliquer. D'abord, l'OMC. Il y a les services. Il y a donc tout un personnel d'experts, gens super compétents. Jamila et moi, on a rencontré un juriste avec qui on a parlé un jour, gens très très compétents. Il y a plusieurs départements. Il y a un département des droits de propriété intellectuelle, il y a un département de l'accord général sur le commerce des services, il y a un département sur l'agriculture, il y a un département pour le règlement des différends, donc le tribunal. Donc il y a toute une administration avec au-dessus un directeur général, qui est un Thaïlandais, un ancien ministre des Finances, M. Supachai. Alors, au-dessus de M. Supachai, il y a ce qu'on appelle le Conseil Général. C'est la réunion des 146 ambassadeurs. Puisque c'est une organisation intergouvernementale, il faut que chaque pays qui en est membre nomme un ambassadeur qui est en permanence à Genève. Et au-dessus du Conseil Général, il y a la conférence ministérielle, qui, elle, si le Conseil Général se réunit en permanence à Genève, la conférence ministérielle, elle se réunit tous les deux ans. Là, ce sont les ministres du commerce, hein, c'est M. Loos pour la France actuellement, qui participe. Et ça se fait, ben, vous vous rappelez, il y a eu, la première c'était à Singapour, puis il y a eu Genève, puis il y a eu Seattle, Doha, et maintenant on vient d'avoir Cancun. Et la conférence ministérielle, c'est la seule instance de l'OMC qui a tous les pouvoirs. Elle pourrait prendre, et vont un instant, les 22 500 pages et les mettre à la poubelle, mais elle peut très bien en ajouter 10 000 aussi. C'est elle qui a tous les pouvoirs. C'est un peu ça la structuration. Alors, pour l'Union européenne, c'est un peu plus compliqué encore, puisque nous avons dans les traités qui créent l'Union européenne un article 133 qui dit que la Commission est négociateur unique. Ça se passe comment? Et il y a d'abord un comité qui s'appelle le comité 133, qui est aussi un beau modèle d'opacité. Ce sont des fonctionnaires des 15 pays. C'est là que tout se décide, en fait. La commission fait ses propositions, elle remet des documents qui sont secrets. Aucun parlementaire, que ce soit du Parlement européen ou de nos 15 parlements nationaux, n'a jamais vu les documents du 133, sauf par fuite et indiscrétion. Mais officiellement, il ne les reçoit pas. Et c'est pourtant là que se déposent les notes de la commission. Moi, j'en ai vu, parce que j'ai mes contacts, donc j'ai mes taupes. Mais c'est effrayant, parce que vous avez des documents qui sont de véritables choix fondamentaux de société. Il y a des documents qui sont des documents de doctrine, d'économie politique. Et que la commission fait avaliser par qui? Des hauts fonctionnaires. Les membres du comité 133, il y en a deux par pays, donc il y a deux Français, deux Belges, etc., sont des hauts fonctionnaires. J'ai beaucoup de respect pour les hauts fonctionnaires, même aussi les bas fonctionnaires, mais ce sont des gens qui sont, comme on dit, en droit, irresponsables juridiquement et politiquement. Ils n'ont pas de compte à rendre à des électeurs. Pascal Lamy non plus, d'ailleurs. On ne peut pas voter pour ou contre Pascal Lamy, je le regrette bien, parce que j'ai envie, moi. mais c'est là que tout se décide. En principe, pas, hein. Je vous parle de la réalité. En principe, quand le comité 133 a donné son avis, parce que formellement, il donne des avis, il les envoie au Conseil des ministres européens. Et c'est eux qui décident.